Making my way downtown, walking fast, faces pass and I'm homebound. Sky, do you think time would pass us by?
Elle avait 17 ans lorsqu'elle a écrit cette chanson, Vanessa Carlton, A Thousand Miles, morceau qui puise sa source dans un coup de cœur qu'elle a eu pour un étudiant de la Juilliard School lorsqu'elle y était, vous savez, cette prestigieuse école d'art à New York. Bon, elle lui a jamais parlé, mais bon, comme ça, elle rêvait, elle imaginait le retrouver en parcourant des milliers de kilomètres, ou de miles en l'occurrence. Allez, c'est avec Laurie Choleva que nous avons rendez-vous maintenant pour une nouvelle diffusion de Clap. C'est tous les samedis de 18h à 19h sur Europe 1.
Europe 1,
18h, 19h,
Clap, Laurie Choleva.
Bonsoir, merci d'être à l'écoute de Clap sur Europe 1. Je suis ravie de vous retrouver et puis surtout un grand merci parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. C'est un succès exceptionnel. En 3 ans, vous êtes 849 000 à avoir rejoint la famille Europe 1. Vraiment merci à tous et à toute l'équipe de Clap se joint à moi pour vous dire merci pour votre fidélité. On fait cette émission avec passion parce qu'on aime le cinéma, parce qu'on aime la radio, parce qu'on aime s'adresser à vous. Donc c'est vraiment une très très belle récompense. Pense pour nous. À mes côtés cette semaine, Caroline Vier de 20 minutes.
Eh bien, bonsoir, Caroline. Laurie, et bonne année. Et oui, on est très content d'être là et de parler de cinéma.
Et notre Mehdi Omaïs.
Salut Laurie, comment ça va?
Qui a toujours un grand sourire, ça fait plaisir.
J'essaye, hein, on l'aime, faut bien.
On l'aime, oh là là, Mehdi.
On est très très heureux d'être là. Alors on va parler bien sûr de l'actualité des sorties salles. Mais avant, un titre de film s'il vous plaît pour décrire l'humeur du jour.
Le vent se lève, le film de Miyazaki, parce que c'est vrai que le vent se lève beaucoup en ce moment et qu'il faut tenter de vivre.
Ah
et
bah c'est l'hiver, ma bonne dame.
Voilà, absolument, il se lève à la fois moralement et physiquement, mais on est là et on tient et on aime le cinéma.
Et on résiste.
En plus, c'est l'une de mes phrases préférées de Paul Valéry. Le vent se lève, il faut tenter de vivre. Moi, je dirais le roi de l'évasion. Pas parce que j'ai fait quelque chose de délictuel, mais parce que le monde part tellement en couille que je m'évade. Dès qu'on me donne une mauvaise nouvelle, je vais vers le cinéma.
On va parler justement des films à découvrir dès ce soir au cinéma. Est-ce que vous avez vu des bonnes choses?
Moi j'ai beaucoup aimé l'affaire Bojarski.
Oui,
on va sûrement
Reda
en
Kateb,
parler dans quelques minutes à une histoire dont j'avais jamais entendu parler et qui vaut vraiment le détour.
Je suis entièrement d'accord avec Mehdi, voilà. Je me suis beaucoup amusé aussi et puis quelle aventure que cette histoire d'un faux monnayeur.
Voilà pour le programme de Clap qui commence maintenant.
Europe 1, Clap, Laurie Choleva.
And the Golden Globe goes to Timothée Chalamet.
Et rafle tout, hein, Timothée Chalamet. On a parlé de lui déjà la semaine dernière avec les critiques Choice Awards. Alors, c'était dimanche dernier dans la nuit. On vous l'avait annoncé, la 83e cérémonie des Golden Globes en direct de Los Angeles, retransmise sur Canal+. Avant de parler du palmarès, j'aimerais qu'on revienne sur les meilleurs moments de cette grande soirée cinéma. Déjà, est-ce que vous avez passé la nuit devant votre télé?
Moi,
vous avez rattrapé les meilleurs moments le lendemain?
Voilà, en fait, il y a tellement de journalistes qui font un super boulot le lendemain. À 8h, vous réveillez, il y a tous les best-of.
C'est vrai. Ah ouais, puis c'est la nuit mortel, hein, faut quand même reconnaître. Aussi, hein.
Ça
c'est long,
fait.
C'est long. Très très long. Le best-of, c'est
plein
très bien.
Y a, oui, voilà, parce qu'il y a quand même plein de bons moments. Alors, on a pu apercevoir Timothée Chalamet et sa compagne, Kylie Jenner, toujours plus amoureux. Leonardo DiCaprio est venu avec sa maman, ou encore George Clooney sur scène, fraîchement naturalisé, qui parle en français.
Bonsoir, mes amis. C'est un honneur d'être ici, you see.
C'est tout de même qui va rester culte.
Franchement.
C'est pas encore au point, quand même.
Il faut qu'il essaye
Duolingo.
Autre moment fort, le discours de Stellan Skarsgård, qui a remporté le Golden Globe du meilleur acteur dans un second rôle pour Valeur sentimentale de Joachim Trier, et qui est revenu sur la nécessité de voir les films sur grand écran. Il a bien raison, écoutez-le.
In a cinema, where the lights go down and eventually you share the pulse with some other people. That's magic. Cinema should be seen in cinemas.
Il a une voix,
un charisme de dingue.
Ça colle les poils, rien que de l'entendre.
Moi, je suis vachement content parce que je pensais qu'il aurait à Cannes le prix d'interprétation, tellement il est bien. Donc, qu'il soit un peu sacré plus tard, ça me fait vraiment plaisir.
C'est un bon comédien. Ouais.
Alors, vous êtes bien à l'écoute de Clap, votre émission cinéma. On vous parle des Golden Globes sur Europe 1. Et justement, on fait le point sur le palmarès. Alors, avant de trop dévoiler tout le palmarès déjà, est-ce que vous étiez content des résultats tous les deux, Mehdi?
Oh, moi, j'avais pas d'attente particulière. Je dois dire que je pense qu'on va en parler dans quelques instants, mais la victoire de Timothée Chalamet m'a fait quand même plaisir. Et puis, le petit hug qu'il a partagé avec Leonardo DiCaprio, plein de complicité, ouais. C'était assez mignon.
Qui était nommé aussi dans la même catégorie.
Exactement. Timothée Chalamet, c'est quand même un acteur qui crispe beaucoup, qui peut agacer, mais il a un talent monstrueux. Et là, la route, elle est pavée vers les Oscars, je crois, parce que c'est son année. Les Golden Globes, il y a les acteurs comédie et les acteurs drame. Et en fait, son principal concurrent, c'est DiCaprio, qui est nommé dans la même catégorie d'acteurs comédie.
Et DiCaprio est nommé pour le film de Paul Thomas Anderson.
Exactement.
Paul Thomas Anderson, pardon. Et Timothée Chalamet pour Marty Suprême.
Exactement.
Caroline, qu'est-ce qu'il y a ?
J'étais ravie pour L'Agent Secret, le film brésilien, parce que c'est un film que j'adore, qu'il ait eu le Golden Globe du meilleur film étranger. J'étais ravie et j'étais ravie pour Wagner Moura, qui est un excellent comédien.
Mais là, on parlait de Timothée Chalamet.
Ah oui.
Elle a zappé Timothée Chalamet.
Vous m'en voulez d'être méchante et puis après vous me provoquez, alors j'y peux rien. Moi, j'aime pas Timothée Chalamet, je trouve que c'est très surestimé. Je suis très triste pour Leonardo DiCaprio, qui est un grand acteur. Voilà,
vous avez le droit de le dire,
mais
Caroline.
Vous vouliez que je le dise, voilà, je l'ai dit.
Mais on veut que vous soyez là pour avoir votre opinion.
Et ben
on respecte.
Voilà, merci.
Mais on n'est pas d'accord.
Ah, mais vous avez le droit. On va se disputer après.
Ah.
Est-ce que ça vous apaise un petit peu?
Ah oui.
Caroline.
Oui, c'est bon, ça fait du bien.
Mais oui, allez, autre acteur sacré dans un drame, cette fois
ça
c'est Wagner Moura, pour L'Agent Secret, star de la série Narcos, avec cette musique. Envoûtante.
Complètement envoûtante.
Et c'était quand même une surprise, parce qu'il était face à George Clooney, Oscar Isaac ou encore Michael B. Jordan.
Moi, je l'avais pressenti sur TikTok.
Vous l'aviez rapidement interviewé dans les festivals de Cannes.
Exactement. Moi, j'adore Wagner Moura et j'adore ce film. Et c'est un grand temps fort pour le Brésil, parce qu'on rappelle que Fernanda Torres avait gagné aussi pour le film de Walter Salles. Donc, ça fait plaisir de voir des comédiens étrangers arriver à Hollywood, et notamment Wagner Moura, qui avait aussi tourné dans Civil War d'Alex Garland et qui, à mon avis, va continuer à son chemin dans le cinéma américain international.
Oui, il est absolument étonnant dans le film. Il est totalement crédible, très émouvant. Et j'étais ravie pour lui, parce qu'en plus, c'est un garçon adorable. Mm-hmm. Et ça fait du bien de voir des gens sympas se faire récompenser de façon juste et méritée.
Alors, le grand gagnant de la soirée, quand même, on peut le dire, avec 4 prix remportés, c'est une bataille après l'autre. Hein, même si Leonardo DiCaprio n'a pas eu le Golden Globe.
Il a pas de bol, quand même.
Mais c'est ce film de Paul Thomas Anderson. Il est un peu maudit, DiCaprio, de façon, avec les prix. Meilleure actrice dans un second rôle, Teyana Taylor, l'un des plus beaux moments de la soirée, elle n'en revenait pas d'avoir gagné et elle a livré un discours plein d'espoir à mes sœurs de couleur et aux petites filles de couleur qui regardent ce soir notre lumière n'a pas besoin de permission pour briller.
Et puis quelle joie de voir Paul Thomas Anderson, qui est quand même l'un des plus grands cinéastes américains et mondiaux, récompensé. J'espère qu'il aura enfin l'Oscar du meilleur réalisateur. Quand on voit sa carrière, on se demande mais what the fuck, comment c'est possible? On a le droit de dire fuck ou pas, Laurie?
De toute façon, vous l'avez dit.
Flûte. Comment ça se fait qu'il a jamais eu l'Oscar
de l'Académie? Non, mais,
parce qu'en plus, c'est un film majeur qui fait un instantané de l'Amérique d'aujourd'hui qui est glaçant.
Et il y a eu Hamnet aussi de Chloé Zhao, qui a émerveillé, bouleversé les votants. Le film a remporté le Golden Globe du meilleur film dramatique. Et surtout, Jessie Buckley, sacrée meilleure actrice dans un drame. Le film sort la semaine prochaine en France. On va en reparler dans cette émission.
Oui, alors c'est assez marrant parce que leur notion de comédie et de drame est quand même très particulière, parce qu'une bataille après l'autre, c'est pas à se rouler par terre de rire quand même.
Ah oui, non, mais bon, après il y a toujours une marge de manœuvre, il y a des films qui sont 50-50, il faut bien décider.
On va tout de suite retrouver Didier Alouche qui était justement à Hollywood pour son JT de la semaine.
Europe. Europe 1, clap. Le JT d'Hollywood, Didier Allouche.
Salut Laurie, salut à tous. Jeudi matin à 5h38 exactement, heure de Los Angeles, 14h38 à Paris, nous saurons. C'est à cette heure-là que l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences annoncera les nommés à la 98e cérémonie des Oscars. C'est donc à cette heure-là que nous saurons si le représentant de la France, Un simple accident, est parmi les 5 finalistes dans la catégorie des meilleurs films internationaux. Même si cela semble fort probable, il a d'abord été nommé à toutes les cérémonies jusque-là, Golden Globe, Critics' Choice, etc., etc. Et surtout, vu l'actualité en Iran aujourd'hui, le film ne peut pas être oublié par les votants. Nous saurons aussi si nos deux films d'animation français, Arco et Amélie et la métaphysique des tubes, très présents dans la compétition jusque-là, se feront une place parmi les 5 derniers films animés en course. Nous saurons aussi si le Festival de Cannes continue à truster les nominations. Rappelons que la semaine dernière aux Golden Globes, les films présents au dernier Festival de Cannes ont obtenu 24 nominations. Il devrait y en avoir encore plus ce jeudi. Nous saurons enfin combien de nominations obtiendra une bataille après l'autre le grand favori cette année. Les plus optimistes en voient 12, ils ne devraient pas être très loin du compte. Nous saurons donc qui sont les grands gagnants et perdants d'une année cinéma paradoxal, une année où tout Hollywood criait à la crise, mais qui accouche de films aussi passionnants que Une bataille après l'autre, Marty Supreme, Train Dreams ou Sinners, une année d'incertitude, mais aussi de révélation, une année étrange au cinéma et peut-être encore plus dans la vraie vie. Qui seront les grands vainqueurs de cette année, pas comme les autres, en tous les cas à Hollywood? Nous le saurons donc ce jeudi à précisément 14h38.
Merci beaucoup Didier, on se retrouve la semaine prochaine. Tout de suite, c'est notre journal des sorties sur Europe 1.
18h-19h, clap.
Laurie Choleva sur Europe 1.
Et merci d'être à l'écoute de Clap sur Europe 1, votre émission cinéma. Je suis toujours accompagnée de mes journalistes Médio Maïs et Caroline Vie. Et c'est l'heure de notre journal des sorties. Au programme, une affaire extraordinaire de faux billets, mais aussi le retour des zombies d'une grande saga. Et puis on parlera d'un drame historique sur l'esclavage, d'une icône italienne et d'une histoire de vengeance. Je vais vite car il y a beaucoup de choses. Déjà un point sur le box-office. Et sans surprise, la fin des vacances scolaires marque cette semaine une lourde chute de fréquentation dans les salles. Avatar reste quand même le grand leader, même s'il a perdu 55% de sa fréquentation. Le film de James Cameron a encore fasciné 729 000 spectateurs. Ça fait un total de 7,4 millions d'entrées.
Il est
un
poil en retard par rapport, enfin même bien en retard par rapport au second. Il ne fera pas le même score. Est-ce qu'il dépassera 10 millions? Rien n'est moins sûr.
À la deuxième place, succès de La Femme de ménage avec Sydney Sweeney qui se dément pas. 683 000 tickets vendus, quasiment 3 millions d'entrées en 3 semaines.
C'est dingue, on se rend compte.
C'est
ou
fou,
pas
hein. C'est ouais, fou, mais ouais. Le roman a tellement été un succès planétaire. Et enfin, sur la troisième marche du podium, Zootopie 2, qui a très bien marché le week-end dernier avec 318 457 spectateurs. Ça fait un total de 7,7 millions
ouais,
d'entrées.
Super. Je vous avais dit, Laurie, qu'il arriverait à 8 millions. Hein.
Ouais, c'est dingue.
Ah non, mais c'est bien, ça les mérite, honnêtement.
On commence notre journal des sorties avec l'affaire Bojarski de Jean-Paul Salomé, réalisateur de La Daronne ou encore La Syndicaliste. Yann Bojarski est joué par Reda Kateb. C'est un immigré polonais, inventeur raté, père de famille qui tente de se faire une place en France. Pendant des décennies, il crée méticuleusement des faux billets plus vrais que nature et échappe à l'enquêteur qui est joué par Bastien Bouillon qui le traque sans relâche.
Règle numéro 1, ne pas écouler plus d'un billet par boutique.
Ça fera 300 francs. Il est tout neuf ce billet.
Règle numéro 2, rien d'ostentatoire.
Merci papa.
Règle numéro 3, la discrétion.
Bojarski, qu'est-ce que t'as fait?
Bojarski, avec l'accent. Là.
Reda Kateb, mais il est Caroline. Tellement épatant cet homme-là dans ce rôle. Je ne connaissais pas du tout cette histoire, j'ai été mais emportée. Quelle histoire incroyable de ce faux monnayeur dont maintenant les billets valent une fortune parce qu'ils sont considérés comme une des œuvres d'art. C'est un inventeur qui a eu une vie totalement pourrie, un gâchis absolu et un film formidable. Moi, j'ai passé un très très bon moment.
Ce qui est fou, c'est que si on habitait aux États-Unis, cette histoire, elle aurait été contée depuis longtemps parce qu'ils aiment ce type d'histoire. Moi aussi, je n'avais jamais entendu parler de ça. Ce mec, c'est un génie. Il est capable capable de dupliquer à l'identique, seul, mais seul, parce que les gens pensaient qu'ils étaient pleins dans son atelier. Le gars est seul, il plie le game en deux secondes, et c'est, alors, au niveau du game, c'est plié aussi les décors, les costumes.
La mise en scène.
Il y a une reconstitution qui nous plonge dans les 30 Glorieuses, qui nous plonge dans la vie de ce monsieur-là, avec voilà, des interprètes extraordinaires.
C'est un peu comme Mehdi sur TikTok, il était tout seul et il brillait.
Merci beaucoup pour cette pub.
On va écouter les réactions du public.
J'ai bien aimé, j'aime beaucoup les films qui sont tirés d'histoires vraies, comme celle-là. Reda Kateb est excellent partout, lui.
L'histoire est incroyable. J'ai préféré la seconde partie, qui est un peu plus sombre et réaliste, j'ai l'impression.
La restitution et les décors nous plongeaient dans l'époque, donc j'ai trouvé que c'était un assez bon film. J'ai pas vu vraiment le temps passer.
On continue avec un film apocalyptique, le quatrième d'une saga d'horreur initiée par Danny Boyle, 28 ans plus tard, Le Temple des Morts. 7 mois seulement après la sortie de 28 ans plus tard, la réalisatrice Nia DaCosta signe une suite directe puisque les deux films ont été tournés simultanément, film coupé en deux en fait, quasiment. On retrouve les zombies mangeurs de chair humaine dans un Royaume-Uni dystopique et on se concentre sur le personnage du docteur interprété par Ralph Fiennes qui pense avoir trouvé la solution pour en finir avec ces créatures. Est-ce qu'on va en finir un jour.
Quand les contaminés attaquent, qu'est-ce qu'ils voient? Je crois que l'infection peut être soignée.
Alors non, on va pas en finir, puisque une suite est déjà annoncée, mais c'est bien, hein, il se passe plein de choses, c'est gorissime, c'est vraiment très très violent, donc c'est d'ailleurs interdit aux moins de 16 ans, ça ne l'a pas volé, donc on sait ce qu'on va voir, on l'a. Moi qui aime beaucoup le cinéma d'horreur, j'ai passé un très bon moment, ça dit beaucoup de mal de l'humanité, donc en plus c'est très sympathique.
Vous aimez ça?
Oui. L'humanité, les gens, pas le journal, hein, je précise.
On va voir si les zombies ont conquis le cœur des spectateurs.
Moi, j'ai adoré le film. Je suis une grande fan de la saga 28 jours, mois, ans plus tard. Je trouve qu'il reprend très bien le lore des films précédents.
J'ai adoré. Il y avait de l'horreur qui était exceptionnelle. J'ai ouvert la bouche pendant toute la séance.
C'est sombre. C'est vraiment l'extrême.
C'est sanglant quand même. Donc, on ne s'ennuie pas. Il y a plusieurs fois où on peut fermer les yeux si vous êtes un peu sensible.
Vous êtes toujours à l'écoute de Clap, votre émission cinéma sur Europe 1. On vous parle des films à voir comme Sans pitié, premier film de Julien Osmalin, un polar sur la vengeance, celle de Dario, un jeune forain enlevé lorsqu'il était enfant, qui est finalement retrouvé. Et 20 ans plus tard, lui et son frère croisent le ravisseur.
C'est qui?
C'est le frère de Ryan.
10 ans sans nouvelles, c'est long.
Tu restes un peu dans le coin?
Je peux te poser une question? J'ai jamais compris pourquoi c'est toi qui l'as choisi.
C'est un film que j'ai envie de défendre, Laurie, vraiment.
Bah, parce que, bien sûr, moi j'aime le scénario déjà, le pitch, j'adore.
Ouais, le pitch est génial. Le scénario est un peu maigre, il y a quelques arrangements et tout, mais il faut le voir pour l'atmosphère et la mise en scène. Le réalisateur, c'est, on sent qu'il kiffe le cinéma de genre, il kiffe le western et il nous amène dans un territoire de cinéma français pas connu qui ressemble au cinéma américain, mais bien ancré ici avec des personnages vraiment très marqués, très caractéristiques, on va dire, des scènes d'action, des scènes de violence et surtout une confrontation de frères presque shakespearienne entre Adam Bessa et comment il s'appelle, le second Tawfik Jalab, que j'adore.
Et alors ce qui est formidable, c'est que ça se passe dans le monde forain et que la description du monde forain n'est pas du tout caricaturale. C'est un excellent premier film et ça prouve que c'est bien d'avoir de la curiosité. Moi, ça a été une de mes très très belles surprises de ce début d'année. Ce serait vraiment malheureux que les gens n'aillent pas le voir. C'est un chouette polar âpre, méchant, avec d'excellents comédiens. Et voilà,
ça a de la gueule.
Ouais, on vient de découvrir un cinéaste à mon avis.
On parle maintenant de Furciné libre d'Abdelmalik, un drame historique sur l'esclavage et son abolition. C'est inspiré de l'histoire vraie d'un esclave interprété par Makita Samba qui se lance dans une bataille judiciaire pour ses droits et sa liberté. Casting également Romain Duris, Anna Girardot ou encore Vincent McKenney.
C'est toi, Furcé ? Ferme les yeux quand je te parle !
J'ai réussi à ce que son procès passe à la Cour royale de Paris. C'est moi qui le défendrai.
Je ne vous abandonnerai jamais, Furcé.
Je manie la guerre des papiers, ces pièces avec un tampon qui sont les seules preuves de la justesse de mon combat.
Ils seront prêts à te pardonner si tu acceptes de retravailler pour eux.
Pardonner? Après toutes ces années de souffrance, cette injustice?
Caroline.
C'est un film important, Furcy, ça parle d'esclavage, c'est un film français qui parle d'esclavage, il n'y en a déjà pas tant. Et C'est très touchant, c'est un film, on peut pas voir ça en restant indifférent, ça poigne, c'est une histoire de vie gâchée, ça parle plus que de l'esclavage, ça parle de son abolition, et c'est bien de rappeler des valeurs essentielles comme celle-là en ce moment.
Moi je te rejoins Caroline sur le fait que cette histoire est hyper importante, que la volonté aussi d'Abdelmalik d'en faire un écho au présent, parce qu'on sent que sa volonté aussi c'est de dire aux gens que c'est bien aussi de connaître le passé, de là où on vient, donc exhumer ce type d'histoire, c'est essentiel pour comprendre le monde dans lequel on vit, et pour ne plus que ces abominations aient lieu. Après, je trouve que dans l'écriture et la mise en scène, il y a des moments un peu trop démonstratifs, un peu trop didactiques. Si on le compare par exemple à 12 Years a Slave, il m'a manqué de la mise en scène, plus de mise en scène, mais j'invite vraiment les auditrices et les auditeurs à découvrir cette histoire.
Je voulais aussi vous rappeler la sortie d'Eleonora Douzé. On en a parlé la semaine dernière en compagnie de Valeria Bruni Tedeschi, un biopic sur cette grande figure du théâtre italien, film réalisé par Pietro Marcello, qu'on a beaucoup aimé, hein, Caroline.
Ouais, elle est formidable. Incroyable.
Et puis avant de terminer, parce qu'il y a plein de choses hein, au cinéma, il y a évidemment Greenland Migration, film catastrophe porté par Gérard Butler en pleine forme.
Donc, il est souvent en forme.
Foncez le voir si vous aimez ce genre de film, parce que c'est toujours très efficace, on passe un bon moment, c'est un vrai bon divertissement. Et puis dans un autre style, Jusqu'à l'aube, un film japonais récompensé au festival de Locarno. Caroline, vous l'avez vu, hein, je crois.
Oui, ça m'a beaucoup touchée, mais j'aime beaucoup le Japon, c'est comment des êtres blessés par la vie arrivent à trouver leur place dans une société où ils ne l'ont pas vraiment. Ça m'a vraiment beaucoup émue.
Ouais, une amitié entre un homme et une femme, tous les deux traumatisés et qui vont réussir à aller mieux ensemble. C'est la fin de ce journal des sorties. Dans un instant, c'est Olivia Sayas qui arrive dans ce studio. Merci beaucoup Mehdi et Caroline. On se retrouve évidemment
merci à vous.
La semaine prochaine pour une spéciale festival du film de comédie de l'Alpe d'Huez. Et tout de suite, on accueille Olivia Sayas sur Europe 1.
18h-19h sur Europe 1.
Clap.
Laurie Choleva.
Merci d'être avec nous à l'écoute de Clap sur Europe 1. Bienvenue si vous nous rejoignez. J'ai le plaisir cette semaine de vous parler d'un excellent film à découvrir au cinéma, Le Mage du Kremlin. Ça sort mercredi prochain, le 21 janvier, un thriller sur les rouages et les arcanes de la politique russe. Et pour en parler, eh bien Olivier Assayas, le réalisateur du film. Bonsoir Olivier.
Bonsoir.
Je suis ravie de vous recevoir. Alors, ce film est adapté d'un roman de Giuliano da Empoli. Comment est-ce que vous avez découvert ce roman? Qu'est-ce qui vous a donné envie de l'adapter?
C'est une longue histoire, hein, donc vous commencez pas par le plus, commencez pas par le plus simple. Non, c'est l'auteur, c'est Giuliano di Empoli qui m'a envoyé son livre, qui était une sorte d'appel du pied à m'intéresser éventuellement
à
faire l'adaptation. Mais ça s'est passé avant que le livre acquiert la notoriété qu'il a acquise. C'était à l'époque, c'était 2000 exemplaires tirés par Gallimard et on savait pas du tout où ça irait. Après, ça a fait exploser la notion de best-seller en France pendant les deux années suivantes. Mais Giuliano, depuis le départ, avait envie que s'il y avait une adaptation du livre, ça soit moi qui la fasse, je pense, parce qu'il m'est arrivé de faire des films autour de la géopolitique et que ces films lui semblaient, relever d'une sensibilité qui pouvait être la sienne. Enfin, il avait le sentiment que je pouvais comprendre de l'intérieur le processus de son livre.
Qui n'est pas évident. Hein. Alors bon, déjà le livre se situe en Russie, on m'a expliqué à nos auditeurs, hein, dans les années 90, l'URSS s'effondre. Et dans ce pays en reconstruction, un jeune homme très intelligent, Vadim Baranov, trace sa voie. Alors d'abord il est artiste, puis producteur de télé-réalité, puis il va devenir le conseiller officieux d'un ancien agent du KGB. Premier un pouvoir absolu qui est bien sûr Vladimir Poutine. Alors c'est un livre très dialogué et d'ailleurs je pense que c'était ça la principale difficulté. Évidemment. Pour adapter ce livre très dense.
Bah disons que moi j'ai pas dit oui tout de suite, c'est pas dans le sens de me placer au-dessus et de juger etc. Mais je me disais c'est pas adaptable. je suis pas enfin, c'est trop compliqué pour moi, c'est trop en plus je sortais de faire une série pour HBO et Tifort, Irma Vep, 8 heures de film, etc. Enfin, je me disais, je vais me lancer encore dans une aventure extravagante et en plus dans le froid. Parce que, parce que on a tout tourné en Lettonie. Je savais que ça se tourne, que jamais de la vie ça se tournerait en Russie. Je savais que ça se tournerait pas en russe. Je me dis, voilà, c'est le format, c'est un film américain, long, avec des acteurs internationaux et qui va se tourner Dieu sait où, dans la périphérie de la Russie, dans des territoires, dans des pays où on trouve le même type d'architecture, etc. Ça va être une galère.
Vous pouvez le dire, hein, Olivier Assayas. Et finalement, une belle galère pour nous, spectateurs, parce que c'est un film quand même passionnant.
Bah, parce qu'à un moment donné, ce qui est excitant, c'est de faire les choses qu'on ne sait pas faire, les choses dont on a peur. Enfin, moi, d'une certaine façon, pour renouveler le désir. Enfin, le problème, c'est toujours, quand on fait des films, c'est de renouveler le désir. Dans tous les arts, c'est ça la question numéro un. Et d'une certaine façon, c'est la raison, au fond... Ce que j'ai aimé dans le match du Kremlin, c'est faire justement ce qui me faisait peur et ce qui me rendait le plus réticent initialement.
La Russie a besoin d'un nouveau type d'homme politique.
Il est jeune, sportif. C'est un espion du KGB. Vladimir Poutine.
Ce qui m'intéresse, c'est le pouvoir. Je ne peux pas être soumis à qui que ce soit.
Notre objectif, c'est le chaos. Nous allons infiltrer l'esprit des gens. Construire le mythe selon lequel les Russes ont pris le contrôle du monde moderne. Nous en sommes les maîtres.
Tu mets ta magie noire au service du pouvoir ?
C'est un jeu. La politique est le seul jeu qui mérite d'être joué.
Plein de choses à dire sur ce film passionnant, notre film coup de cœur sur Europe 1, Le Match du Kremlin, en salle le 21 janvier, mercredi prochain, avec au casting Paul Dano ou encore Jude Law, Alicia Vikander, et pour en parler à mes côtés, Olivier Assayas. Alors justement, qu'est-ce qui vous inspire ce mot « pouvoir » ? Parce que c'est le cœur du film.
Le pouvoir, c'est l'objet de la politique. C'est l'objet de la politique, c'est-à-dire que comment on y accède, et une fois qu'on y a accédé, comment on y reste.
Et évidemment,
qu'est-ce qu'on en fait. Mais enfin, je dirais qu'aujourd'hui, ce qui m'a passionné dans le livre de Giuliano da Empoli, c'est qu'il arrivait à saisir quelque chose que personne d'autre n'avait saisi comme lui, qui sont les nouvelles donnes de la politique, les nouvelles stratégies de la politique post-réseaux sociaux et post-internet. Lui, il a été le conseiller politique de Matteo Renzi, premier ministre d'Italie. Donc, il a été au cœur de la...
De la machine.
De la machine, de la centrifugeuse, de la centrifugeuse, etc. Et donc, il a pu observer au fond, comment s'était transformée la politique de notre époque et selon quelles nouvelles règles. Et je pense qu'il est l'un des meilleurs analystes contemporains de ces questions-là. Donc, évidemment, moi, ce qui me passionnait d'emblée, c'était de me confronter à des questions qui relèvent de la politique, mais qui relèvent de la politique d'une façon dont le cinéma n'en a jamais parlé. Le cinéma parle de façon souvent très conventionnelle de la politique, et en général de la politique française. Là, il y avait la possibilité de parler de la politique internationale et de la façon dont elle se métamorphosait dans un monde qui se transforme sous nos yeux de façon intrigante, passionnante et, j'ai envie de dire, très inquiétante la plupart du temps.
Oui, c'est ce que j'allais dire, parce qu'on voit dans le film, évidemment, c'est la thèse du livre, hein, que Poutine donc, est choisi par les oligarques de l'époque, qu'il pensait manipulable, et finalement, c'est l'erreur de casting. Presque.
Il sous-estime Vladimir Poutine. Alors après, est-ce que la version qu'en donne Giuliano dans son livre est la bonne? En tout cas, c'est celle qu'on a adoptée et c'est celle qu'adoptent aujourd'hui les historiens contemporains. Mais enfin, est-ce que Vladimir Poutine n'a pas été amené au pouvoir par un complot du FSB alias le KGB? C'est quand même une hypothèse qui pourrait se défendre.
Alors, pour incarner justement Vadim Baranov, qui, donc je le rappelle, hein, vient de la télé et se retrouve à devenir le spin doctor de Poutine, c'est assez dingue, hein, comme trajectoire, c'est Paul Dano. Paul Dano qui est absolument génial, fascinant, personnage trouble, détaché, comme si rien ne pouvait l'affecter. Est-ce que c'était une évidence pour vous de prendre Paul Dano?
Oui, parce que j'ai toujours considéré que Paul Dano était un acteur rare. C'est quelqu'un qui a une qualité d'intériorité, de profondeur, et quelque chose à la fois d'enfantin et de mystérieux. Il n'a pas d'âge, on ne sait pas s'il est jeune, s'il est plus vieux. Il peut passer de l'un à l'autre un clignement d'œil. Enfin, disons que il y a un côté pour un metteur en scène, c'est un Stradivarius, quoi. C'est quelqu'un qui travaille qui a une telle intelligence, une telle profondeur, à la fois une telle humanité et une telle dureté. Qui circulent de l'un à l'autre, c'est passionnant parce qu'à l'intérieur des plans, il y a des nuances dans le rythme, dans la musicalité, etc. Il fait passer des choses dans leur complexité. Et le politique, c'est le domaine du complexe. C'est le domaine du complexe en termes humains. Et en termes humains, Paul Dano porte ça d'une
Bien
façon
sûr.
Brillante.
Et puis il est acteur du film et narrateur. Et cette narration, ce qu'on disait, la densité de ce roman, c'était très important aussi. Et c'est vrai qu'il nous tient.
Parce que oui, enfin, le défi, c'était de réussir ce que Giuliano da Empoli réussit dans son livre. C'était, il fait un livre qui est à la fois passionnant, distrayant. Il y a ce côté page-turner. Enfin, moi, je l'ai lu à toute vitesse, absolument fasciné. Mais je crois que ça, c'est quelque chose de communicatif parce que c'est vu le succès du livre. Mais il fallait trouver au cinéma l'équivalent. C'est-à-dire, il fallait arriver à rendre ce film, rendre le souffle historique du film, rendre son côté épique et en même temps ne pas avoir peur de rentrer dans la théorie politique, dans la réflexion politique sur le présent tel qu'il se transforme sous nos yeux.
Et en même temps, je suis obligée de vous poser la question, hein, Quentin Tarantino, il a rien compris à Paul Dano, parce que qu'il y a une polémique quand même, et Quentin Tarantino s'est mis tout Hollywood à dos en critiquant Paul Dano et en le qualifiant carrément de nul. J'imagine que vous avez halluciné quand vous avez lu ça.
Bah, j'ai halluciné. Moi j'ai beaucoup d'admiration pour Tarantino.
Hein,
vraiment, c'est clair, c'est un des grands cinéastes aujourd'hui. Je trouve que son dernier film, il était une fois Hollywood, et sans doute son chef-d'œuvre. Donc il n'y a pas de débat sur le fait que sur le fait, etc.
Sur son talent.
Mais par ailleurs, il y a ce côté grande gueule qui dit ce qui lui passe par la tête,
provocateur
etc. Mais là, c'est un peu la limite de la sympathie que j'ai pour lui, parce qu'aujourd'hui, quand il y a une grande gueule au pouvoir aux États-Unis qui utilise les mots avec une brutalité odieuse, qui humilie ses adversaires, etc., le côté grande gueule me fait moins rire. Me fait même beaucoup moins rire.
Et puis là, c'était gratuit. Et surtout, on est quand même nombreux à ne pas du tout partager son avis, même si moi aussi, j'aime beaucoup Quentin Tarantino par ailleurs. On va parler de Jude Law aussi. Pas facile d'accepter ce rôle, j'imagine.
Oui,
j'avais
très confiance dans le fait qu'il aurait envie de le faire. Il s'est trouvé, le hasard a fait qu'on s'est retrouvés ensemble au jury au Festival de Cannes, et on était d'accord sur à peu près sur tout. Et à l'époque, en particulier sur ce qu'on voulait imposer comme Palme d'Or, qui était The Tree of Life de Terrence Malick. On est frères d'armes.
On est resté
en contact, et quand la question s'est posée, je me suis de qui pourrait interpréter une version de Vladimir Poutine, je me suis dit c'était plus intéressant d'aller chercher une sorte de puissance, d'aller chercher un acteur qui a à la fois une intelligence, une finesse et une puissance, et puis qui aime se transformer. Donc je savais que Jude, c'est quelqu'un qui tourne beaucoup, qui fait beaucoup de choses très diverses, etc., mais qui a, au fond, qui a besoin d'être mis au défi de faire des choses qu'il n'a pas faites, qui renouvelle son inspiration, qu'il met en danger, ça l'amuse, c'est ce qui lui plaît, c'est ce qui rend son travail vivant. Donc il a tout de suite, il a très tôt dit oui, on s'en est parlé très tôt, et il a très vite commencé à réfléchir, à se documenter, à faire...
Oui, c'est
évidemment.
Ça. Comment est-ce qu'on entre dans la peau de Poutine?
En regardant beaucoup de documentaires, en essayant de comprendre. Je veux dire, il a voulu parler à Giuliano De Empoli, on leur a organisé un Zoom de façon à ce qu'il puisse lui poser toutes les questions qu'il avait besoin de lui poser. Enfin, il a besoin de faire ses devoirs avant d'arriver sur le plateau.
Et il est formidable.
Et c'est miraculeux de travailler avec lui.
Oui.
Et d'ailleurs, c'est assez intéressant, il y a un truc qui est presque documentaire qu'on voit dans le film, c'est-à-dire que quand on le découvre pour la première fois dans le film, c'est le premier jour de Jude Law, le premier jour de tournage de Jude Law. C'est le premier jour, c'est le premier plan et on a choisi la première prise. Mmh. Donc on voit littéralement le moment où tout le travail qu'on a fait jusque-là de préparation, de documentation se matérialise et où il se transforme en Vladimir Poutine sous nos yeux.
Alors je le disais, hein, la thèse du film, donc c'est que la marche du monde est dictée par des scénaristes, presque un ancien metteur en scène de théâtre. Et il y a quand même un côté inquiétant quand on regarde le film.
Si vous voulez,
avec tout ce qui se passe aujourd'hui.
Disons que le fait que la propagande appartiennent aux outils du politique, c'est pas entièrement une nouveauté, en particulier en Russie. La police secrète tsariste a déjà été assez bonne là, sur la question, et le KGB, le GPU, ce que vous voudrez, ont également été des inventions russes qui étaient d'une grande modernité et d'une grande efficacité dans leur capacité à faire régner la terreur. Donc la Russie a cette culture-là, à cette histoire-là, et c'est pas surprenant que les nouvelles modalités des politiques, encore une fois post-internet, se soient inventées, se soient définies dans ce terreau-là qui était déjà présent et qui n'attendait que d'être mis en œuvre par quelqu'un qui en comprendrait le fonctionnement et qui en comprendrait les rouages.
Puisqu'il était metteur en scène à la base, le personnage qu'incarne Paul Danou, vous verriez-vous Olivier Assayas diriger la destinée d'un pays?
Ça ne m'a pas traversé l'esprit jusqu'à présent, mais ça peut venir.
Hein. Ça pourrait vous plaire.
Non, honnêtement, je ne crois pas. Je crois que la question du pouvoir, elle m'intéresse, et en même temps, c'est que le pouvoir n'est pas quelque chose que j'aime.
Je dis ça parce que vous avez souvent interrogé, hein, à travers votre œuvre et vos films, les systèmes politiques, médiatiques, économiques. C'est quand même des sujets qui vous intéressent et qui vous habitent.
Disons qu'elle m'intéresse dans le sens où j'écris et que souvent j'écris des choses qui sont tout à fait intimes et qui relèvent d'un cinéma plus de chambre, enfin à une échelle plus modeste. Mais néanmoins, pour écrire, il y a besoin de comprendre le contemporain, de s'intéresser au contemporain. Et moi, je me suis toujours intéressé depuis mon adolescence à la politique, aux idées, et j'ai d'une certaine façon, je me suis, l'information fait partie de mon monde et elle nourrit mon inspiration, bien sûr.
Est-ce que Vladimir Poutine a vu le film?
Ça, j'en sais rien. Est-ce que ces services secrets sont assez bons pour voler une copie du film? Ça, je ne sais pas. Sans doute, peut-être, mais je ne l'affirmerai pas.
J'ai lu que Jennifer Lawrence a déclaré vouloir tourner avec vous, Olivier Assayas. Vous le saviez?
Et c'est réciproque, j'aimerais tourner avec Jennifer Lawrence. Elle m'a contacté, oui. Ça, c'est,
Donc il y a un projet en cours?
Non, il n'y a pas de projet encore en cours, mais il y a le désir d'avoir un projet. On en est vraiment avant le
démarrage. La prise de contact.
Voilà, prise de contact.
Je vous demande ça parce qu'il faut rappeler que vous avez travaillé avec des acteurs français, internationaux, dans des contextes très différents. Et justement, en quoi ce travail avec l'étranger a changé votre regard de cinéaste?
Disons que moi, je me suis toujours vécu comme un cinéaste international basé à Paris. J'ai toujours eu le sentiment, que j'ai toujours été attiré par le monde et par un cinéma mondialisé. J'ai toujours eu l'impression qu'il fallait que le cinéma français, quelquefois, il pouvait être étouffant, il pouvait être asphyxiant, et que j'ai toujours eu le désir d'en sortir, de faire des choses plus ambitieuses, dans des cultures que je connaissais pas nécessairement, mais de me servir du grand privilège d'être cinéaste pour explorer le monde et essayer d'en rendre compte et d'apprendre tout ce que je peux apprendre d'autres cultures, d'autres mondes. Ça fait toujours fait partie de mon travail.
Vous allez rester à mes côtés parce que franchement, on a hâte de découvrir votre questionnaire. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de choses qu'on n'a jamais eues encore dans l'émission, donc je suis très contente.
18h-19h sur Europe 1. Laurie Choléva.
Merci d'être avec nous à l'écoute de Clap sur Europe 1. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés cette semaine le réalisateur Olivier Assayas. Ça va, Olivier ?
Ça va très bien, merci beaucoup.
On parle du match du Kremlin qui sort la semaine prochaine au cinéma le 21 janvier. Adaptation du roman de Giuliano d'Empoli, passionnant évidemment sur les rouages et les arcanes de la politique russe et comment Vladimir Poutine est arrivé au pouvoir. Alors Olivier, c'est le moment de découvrir les films de votre vie. Si je vous demande votre meilleur souvenir de cinéma, je crois qu'il est récent.
Ah bah c'est la reconstitution dans la version intégrale du Napoléon d'Abel Gance, qui doit être un de mes films préférés. Enfin pour moi c'est un des chefs-d'œuvre absolus du cinéma mondial. Il n'avait jamais été montré depuis sa réalisation par Abel Gance dans les années 20, dans la version voulue par Abel Gance, dans la version intégrale de plus de 6 heures, etc. Je ne vous cache pas, je l'ai vu 3 fois en l'espace d'un mois ou de deux mois. C'est un film extra.
Hein.
6 heures. On est plutôt dans les 6 heures. Je crois. je peux pas vous donner un chiffre exact, mais il me semble qu'on est plutôt dans les 6 heures.
Et oui, c'est vrai que récemment, il y a eu la version restaurée à la Cinémathèque.
Voilà. Et je dois te dire que je l'attendais depuis des années. Je savais que le travail de restauration était en cours, que ça allait arriver. Et je dois dire que j'ai pas été déçu. C'est un film prodigieux.
Olivier Assayas, votre film Réconfort.
Quand ça va pas, ou quand je suis d'humeur maussade, etc. Guitry est sans doute n'importe quel film de Guitry, spécifiquement Le Comédien, qui est peut-être celui que je préfère, mais Guitry est d'une intelligence, d'un brio, d'une drôlerie, d'une profondeur, enfin, etc. Il y a quelque chose. Moi, je suis terriblement envieux de Guitry, quoi. La facilité avec laquelle lui viennent des scènes, la liberté qu'il a de circuler du réel à l'invention, le rapport qu'il a à l'histoire de France, à la culture française. Enfin, c'est pour moi, il y a quelque chose qui me, dans la légèreté, la grâce et la drôlerie de Guitry, qui est bénéfique.
Un bon entendeur, salut!
C'est exactement ça, une emmerdeuse. Mon métier, je l'aime, je l'adore et je le sers perpétuellement. L'état de comédien est le plus beau du monde. Il faut jouir en scène.
Je suis à vos ordres.
Moi aussi.
Je vous vois sourire. Hein. Extrait du Comédien, donc, de Sacha Guitry. Quel est le film le plus traumatisant que vous ayez vu?
Pas traumatisant, les films où j'ai réellement eu peur. Genre de peur à me cacher derrière le fauteuil, etc.
À pas pouvoir
regarder l'écran. Peut-être que ça semblera très inoffensif aux spectateurs contemporains, mais enfin à l'époque, quand j'ai vu La Colline à des yeux, alias de Hills Have Eyes de Wes Craven, ça m'a absolument terrifié.
Mais c'est terrifiant.
Qui est le même effet que m'a fait Aliens de James Cameron, qui me fait beaucoup plus peur que le film de, je sais pas si c'est un meilleur film ou pas un meilleur film que celui de Ridley Scott. Mais Aliens 2, c'est pareil, je veux dire, ça m'a traumatisé.
On a un extrait de La Colline à des yeux.
Tu captes un réseau?
Non, rien.
Il y a du monde par ici, des gens habitent vivent dans ces collines.
Les bruitages. Le film que vous avez le plus vu dans votre vie?
Je crois que le film que j'ai vu, je pense qu'il y a plusieurs films,
oui,
il y avait
clairement
plusieurs films de Bresson ou de Tarkovsky que j'ai dû voir un certain nombre de fois, mais je pense que si je dois en nombre de vues, je pense que ça doit être les Espions de Fritz Lang.
Film muet
de Fritz Lang, de plus du plus
haut, très
long, mais j'ai une passion pour le cinéma muet. Moi, il y a quelque chose dans le cinéma muet qui a
à Napoléon
voir
est muet d'ailleurs.
Napoléon est muet aussi, c'est aussi en noir et blanc aussi, et il y a quelque chose dans le muet qui est essentiel au cinéma. C'est le moment où les choses se filment pour la première fois, on regarde le monde pour la première fois, on raconte l'histoire pour la première fois. Il y a quelque chose de vierge dans le cinéma muet qui fait qu'on est au cœur de la poésie du cinéma et de ce que j'aime dans le cinéma, ce qui me touche.
Votre séance de cinéma la plus dingue?
Elle n'est pas si dingue que ça, mais elle est extrêmement frustrante. C'est quand je suis allé voir Aviator de Martin Scorsese, ouais. qui est un cinéaste que j'admire beaucoup et qui a beaucoup compté pour moi et pour lequel j'ai même de l'amitié. Le projecteur est tombé en panne un quart d'heure avant la fin du film. C'était horrible.
Horrible.
Et au fond, j'ai jamais vu la fin. Donc
je n'ai jamais rattrapé.
Dorénavant, il faudra passer la serpillière. Les maladies respiratoires ne sont pas prises en charge. Je ne tiens pas à avoir un procès sur le dos.
D'accord. Mais on pourrait pas en finir avec le tableau de bord dont on avait parlé? Ils sont prêts à démarrer à la tête.
Non, je veux revoir tous les plans.
Howard, il y a des délais à tenir, ça devient complètement irréaliste. À ce rythme-là, la guerre sera finie, l'avion ne sera toujours pas construit. J'ai besoin de vous ici, besoin de vous consulter sur des décisions essentielles. Et vous, vous vous occupez de vos films, alors que vous avez un millier d'ouvriers qui attendent chaque jour que vous preniez une décision.
Hey,
et
ok, vous... il faut vous détendre, d'accord?
Voilà, extrait de The Aviator de Scorsese, en version française. Le film qui vous fait le plus rire, Olivier Assayas?
Alors, comme tout le monde de partie de Black Edwards, qui est un cinéaste que j'adore et pour qui j'ai une passion, y compris pour toutes ces époques, y compris les films les plus tardifs, les moins connus. Et puis, 1, 2, 3 de Billy Wilder. J'adore. Enfin, je veux dire, ça marche, je marche à chaque fois. Ça, je me rends compte. Parce qu'il y a des films qui me font rire une fois, et puis après, je les revois, je suis un peu déçu, etc. 1, 2, 3, je peux le revoir autant de fois que je veux, ça me fait rire à chaque fois.
Qui n'est pas d'ailleurs son film le plus connu non plus. Hein.
Non, injustement.
Are you ready for this? She's married. That's right. She got herself an ever-loving, curly-haired, card-carrying husband.
She married a communist? This is going to be the biggest thing to hit Atlanta since General Sherman threw that little barbecue.
Le film qui vous fait pleurer à chaque fois?
Oh, Heaven's Gate. Ça me bouleverse à chaque fois.
La porte du paradis.
Moi, je pleure pas beaucoup au cinéma. Enfin, je suis ému facilement. Les larmes, c'est plus rare et c'est plus etc. Mais je crois que la musique de David Mansfield de Heaven's Gate, accompagnée par la scène de patinage, etc., est une merveille, comme toute la plupart des scènes de ce très beau film.
Projet maudit.
Ce qui est très troublant, c'est que je l'ai vu à l'époque. Je l'ai admiré à l'époque dans ses différentes versions incomplètes, mais en ayant le sentiment qu'il y avait quelque chose d'un peu raté. Enfin, que c'était à la fois un très beau film, mais pas complètement réussi, etc. Et puis je l'ai revu il y a pas si longtemps, peut-être 5 ans ou 6 ans, et ça m'a scotché. Je me suis dit, mais en fait non, en réalité c'est un film de génie, quoi. C'est un des vrais grands films américains, des derniers vrais grands films américains, et il est habité par cette mélancolie, cette tristesse, ce passage du autour du passage du temps, hein, c'était la phrase d'accroche du film à l'époque en anglais, c'était What one loves in life are things that fade. Ce qu'on aime dans la vie, c'est ce qui s'efface. Et il y a quelque chose sur la mélancolie du passage du temps qui me touche beaucoup et qui résonne avec la musique de David Mansfield.
Je disais projet maudit parce qu'à l'époque, il n'a pas marché. Non, 44 millions de dollars, ça a coulé, je crois, le studio. Ouais. Et pourtant, casting aussi, un casting de dingue avec Isabelle Huppert, Christopher Walken, John Hurt, Jeff Bridges.
Christopherson.
Et William Dafoe aussi.
Et William Dafoe.
Olivier Assayas, le film qui vous fait penser à vos 20 ans?
Alors, d'abord, celui qui ressemble le plus. Celui qui ressemble le plus à l'adolescent, au jeune homme que j'étais, c'est Le Diable probablement de Robert Bresson. Mais en même temps, il y a Dazed and Confused sur les
Génération rebelle
de Richard Linklater. J'ai l'impression que la caméra était présente dans ma classe et dans la cour de récréation du lycée.
Qu'est-ce que vous faisiez à 20 ans? Vous étiez quel genre de jeune adulte?
C'est les années d'après mai 68, donc j'étais très politisé, très rebelle, j'étais très engagé, j'ai fait toutes sortes de bêtises, de bêtises de toutes sortes, etc. Mais enfin, disons que... Et puis j'avais un peu tendance à sécher les cours, j'étais une nuisance.
Votre comédie romantique préférée?
Oui, alors les comédies romantiques, j'en ai regardé quelques-unes, mais plutôt avec ma fille. C'est pas mon genre de prédilection, etc. Mais enfin, je sais que Love Actually, ça m'avait beaucoup fait rire et j'avais trouvé ça même très bien.
C'est pas vraiment la musique de circonstance, mais bon, c'est vrai qu'on pense à cette chanson quand on pense à Love Actually. Olivia Sayas, le film que vous conseillez à un enfant. Alors attention, faut pas faire attention au titre du film.
Oui, oui, c'est ça. Et ben, ça s'appelle Un condamné à mort s'est échappé. Donc je suis pas sûr.
De Robert Bresson, une nouvelle fois.
Je sais pas si ça peut marcher hein, auprès d'un enfant, etc. Mais ça pourrait parce que ça a une telle simplicité.
Pas trop jeune, l'enfant.
Il n'y a pas beaucoup de dialogue, on voit des gestes, des actions, mais au fond assez simples de quelqu'un qui essaye d'échapper à son destin et qui y arrive. On a peur qu'il n'y arrive pas, on a tout le temps peur qu'il n'y arrive pas, et puis finalement il y arrive et ça donne une sorte de joie qui est matérialisée par ce moment musical magnifique quand il s'enfuit. Et je pense qu'un enfant peut comprendre ça et que ça peut lui transmettre ce que le cinéma sait faire de plus beau.
Avec des acteurs non professionnels, comme c'est quasiment toujours le cas avec Robert Bresson. Quel héros de film auriez-vous aimé être ?
Je suis moi-même, ça me va.
Ça vous va.
Ça me suffit.
Vous êtes un héros à votre façon. Le cinéma a quand même un pouvoir d'éveiller les consciences, en tout cas.
Oui, enfin, le cinéma, c'est une sorte de métier d'aventurier, oui, à sa manière.
Ça, donc,
à
Indiana Jones.
Oui, Indiana Jones, j'irai pas jusque-là.
Un film qui a changé votre vie ? Je vais vous laisser prononcer le titre.
Ça va pas vous dire grand-chose. C'est Injiru Mimus Nocte et Consumimurigni de Guy Debord. Je suis très debordien. Debordien est un théoricien politico, un philosophe et un artiste dont l'œuvre a beaucoup compté pour moi. Et il a fait un film qui est à la fois un film...
C'est un essai filmé
qui est également une forme d'autobiographie et qui... j'ai envie de dire, je ne sais pas si je devais le mettre dans cette catégorie-là ou dans la catégorie des films qui me font pleurer, mais il y a quelque chose sur le passage du temps, sur une forme de poésie contemporaine. J'ai eu l'impression, si vous voulez, en voyant ce film en salle, qui n'intéressait personne, il est sorti avec trois copies, dans l'obscurité, j'ai eu l'impression que c'était fait pour moi. J'ai vu ce film et j'ai eu le sentiment qu'il me parlait d'avoir rencontré la poésie de mon époque, qui était à la fois une poésie révolutionnaire et une poésie qui renvoyait aussi en même temps au passé, comme, j'ai envie de dire, comme Guitry dont on se parlait tout à l'heure, sous un registre évidemment très différent.
Justement, quand on parle de nostalgie, quand vous vous retournez sur votre parcours, vous vous dites quoi ?
J'ai fait de mon mieux.
Bon, c'était pas mal, hein ?
Parce que c'est les films...
Vous êtes
les
nostalgique ?
Oh non, pas du tout. Alors là, vraiment, je suis la personne la moins nostalgique qui existe. Pour moi, ce qui m'intéresse, c'est le présent et le futur.
Alors justement, quel serait le titre du film de votre vie ?
J'ai... Trop tôt pour le dire.
Ok, ça me va. Olivier Assaya, je rappelle que vous avez réalisé Le Match du Kremlin qui sort le 21 janvier avec au casting Paul Dano, Jud Law et Alicia Vikander,
que j'aime j'adore
beaucoup, qui a un super rôle dans le film, que vous avez étoffé par rapport au roman d'ailleurs.
Ah bah oui, largement.
Xenia.
Oui. Largement, mais je l'ai écrit vraiment pour elle, parce qu'on avait tourné ensemble Irma Vep, on s'est beaucoup amusé, je trouve que c'est une actrice extraordinaire et qui a une capacité de transformation, parce qu'elle peut être à la fois bouleversante et d'une drôlerie, d'une fantaisie absolue, etc. Et donc, je savais que je pouvais faire une sorte de Xenia bigger than life avec Alicia, et on s'est beaucoup amusé ensemble à faire ça.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
C'est la fin de cette émission. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Stéphanie Demuru pour Europe 1 Soir Week-end. Et je vous retrouve bien sûr samedi prochain. Passez un très bon week-end à l'écoute d'Europe 1.
18h-19h, clap.
Laurie Choleva sur Europe 1.
Et voilà, c'était Laurie Choleva que vous retrouverez donc samedi prochain dans Clap de 18h à 19h sur Europe 1. On vous remercie d'avoir choisi la Maison Bleue pour vous accompagner et on accueille les Lève-Tôt, bien sûr. Dans un instant, c'est la semaine politique Europe 1. Bah oui, c'est la fin de nos programmes de nuit. On va se quitter comme toujours en chanson. Et aujourd'hui, le nouvel hymne des Enfoirés. Tout se casse. Allez, je file et je vous embrasse.
Moi, je file la rocaille à ceux qui n'ont plus rien. Sans idéologie, discours ou baratin. On vous promettra pas les toujours du grand soir, mais juste pour l'hiver, à manger et à boire.
Volets fermés, t'as touché le fond tendu.
La machine à penser est cassée.
C'est l'histoire des enfoirés.
restos du cœur serré.
Les hirondelles bénévoles, mais jamais assez. Si tu crois qu'on a trop rêvé,
ou si tu crois qu'on a trop pleuré,
ou si tu crois qu'on a trop rêvé, ou si tu crois.
L'info en continu, c'est sur Europe 1.
Bonjour à tous et bienvenue dans la semaine politique sur Europe 1. Et tout de suite, écoutons le député Les Écologistes Benoît Biteau sur son opposition au Mercosur.
Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Ministres, chers collègues. J'aimerais baser mon propos sur des fondamentaux. D'abord préciser que des échanges planétaires ne passent pas forcément par des accords de libre-échange. Je viens d'une belle région où on produit un produit merveilleux avec lequel je suis absolument pas fâché, qui s'appelle le cognac. 98% de la production de cognac est exportée et nous n'avons pas besoin d'accords de libre-échange pour exporter 98% des volumes de cognac. Donc il faut cesser avec ce mythe qui consiste à penser que pour faire de l'économie, des échanges planétaires, nous avons absolument besoin des accords de libre-échange. Sauf que quand on conclut des accords de libre-échange, on s'impose des contingences de volume. Or, c'est précisément ces contingences de volume qui nous posent un problème. Non pas que la viande bovine venue du Mercosur va venir inonder le marché européen de la viande. On a calculé, c'est à peu près un steak par an par citoyen européen. Mais l'entrée de ces volumes contingentés fait qu'on va tirer vers le bas les produits carnés, les produits de viande bovine, et que ces produits qui tirent le prix vers le bas ne permettront plus aux producteurs européens de vendre au juste prix la viande qu'ils produisent sur nos territoires avec des standards de production nettement supérieurs à ceux qui sont obtenus sur le continent européen. Et donc, cet accord de libre-échange avec ses contingences de volume font que l'agriculture devient la variable d'ajustement, que l'agriculture devient la monnaie d'échange pour pouvoir commercialiser des grosses berlines allemandes, pour pouvoir commercialiser des avions, pour commercialiser des services. Or, ce que ça veut dire, très concrètement, ça veut dire que nous sacrifions un secteur économique majeur, qu'est l'agriculture européenne, pour pouvoir exporter ses productions. Alors qu'il nous faudrait précisément réclamer l'exception agricole. Il n'est pas question de dire on ne veut plus d'accord de libre-échange, il est question de dire qu'on parle d'un besoin primaire, celui de se nourrir, et que les productions agricoles devraient être systématiquement écartées de ces accords de libre-échange, précisément pour que l'agriculture ne soit pas la monnaie d'échange, ne soit pas la variable d'ajustement de ces accords de libre-échange. Ensuite, on convoquerait la souveraineté alimentaire pour justifier ces accords de libre-échange. Je vais rappeler, et je le répète à l'envi, que ce qui menace la souveraineté alimentaire aujourd'hui, c'est le dérèglement climatique, c'est l'effondrement de la biodiversité. Or, cet accord de libre-échange accélère précisément ces deux périmètres, effectivement. L'accord de libre-échange, c'est de la déforestation de la forêt amazonienne qui est le poumon de notre planète. L'accord de libre-échange avec le Mercosur, c'est une déforestation additionnelle de 700 000 hectares pour amplifier la production de viande bovine qui veulent nous